Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 28 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monedero.
On commence avec les titres.
Des opposants sont toujours poursuivis en Côte d'Ivoire pour les violences électorales de 2020, selon nos procureurs d'Abidjan.
Au Cameroun, une trentaine de cadres et de militants du MRC, le parti de Maurice Kamto, ont été condamnés lundi. La justice camerounaise a aussi libéré trois étudiants emprisonnés depuis 2016 pour une blague sur Boko Haram.
En Libye, une commission du Parlement refuse de fixer une date pour les élections.
Covid-19, pas de panique, a dit le président américain Joe Biden face au boom des contaminations aux États-Unis.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités de l'opposition sont toujours poursuivies dans le cadre de violences meurtrières qui avaient émaillé l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qu'a rappelé hier lundi le procureur d'Abidjan, alors que le climat politique se décrispe dans le pays. Abdourahmane Dia.
Selon le procureur Richard Adou, 233 personnes impliquées à divers degrés ont été interpellées et 40 sont toujours activement recherchées. Une grande majorité des personnes interpellées ont toutefois été remises en liberté sous contrôle judiciaire, à l'image du leader du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguessan, ou du numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Maurice Kakoubi-Kawé. Ces deux poids lourds de la politique ivoirienne ont passé plusieurs semaines en prison fin 2020. M. Adou n'a pas exclu que des poursuites puissent être engagées contre l'ancien chef de l'État et leader du PDCI, Henri Colombédié. Toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à ces faits demeurent poursuivies, même en liberté, a toutefois martelé M. Adou, indiquant que le dernier mot revenait désormais au juge d'instruction. Les violences électorales autour de la présidentielle de 2020 ont fait 85 morts et 500 blessés. Ces déclarations interviennent alors que le climat politique est plutôt à la décrispation depuis quelques mois en Côte d'Ivoire. Le dialogue entre les partis d'opposition et la majorité a repris le 16 décembre. Alassane Ouattara a rencontré les principaux opposants, Henri Colombédié, Laurent Gbagbo et Afinguessan.
Trois étudiants condamnés en 2016 au Cameroun à 10 ans de prison pour avoir partagé un SMS sarcastique faisant référence au groupe djihadiste Boko Haram ont été libérés, a annoncé lundi l'ONG Amnesty International. Les étudiants avaient été déclarés coupables par un tribunal militaire de non-dénonciation d'actes terroristes le 2 novembre 2016.
Une trentaine de militants du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto, dont son porte-parole et son trésorier, ont été condamnés à des peines allant de 1 à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion. Ces militants avaient été arrêtés le 22 septembre 2020, alors que leur parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et plusieurs autres projetaient des marches pacifiques contre le régime du président Paul Biya, au pouvoir sans partage depuis 39 ans. Nous reviendrons sur ces affaires judiciaires au Cameroun dans la seconde partie de cette édition.
Une quinzaine de civils ont été tués depuis jeudi dans des attaques de groupes qui affrontent l'armée dans le nord-est de la République démocratique du Congo, avec 38 tués côté rebelles selon des sources militaires locales. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées en état de siège depuis mai sans mettre fin aux violences. Depuis le 30 novembre, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes contre les ADF, le plus meurtrier de la centaine des groupes armés répertoriés dans la région.
Une commission du Parlement libyen s'est refusée lundi à fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle initialement prévue le 24 décembre avant d'être reportée, ce qui laisse planer le flou sur le sort de ce scrutin crucial. Les précisions avec John Lindon.
Au cours d'une séance très attendue du Parlement, réunie lundi à Tobrouk dans l'est du pays, cette commission chargée du suivi des élections a présenté un rapport concluant qu'il serait hasardeux de fixer une nouvelle date à ce stade, opposant ainsi une fin de non-recevoir à la date du 24 janvier proposée par la Haute Commission électorale libyenne. La commission a, en revanche, préconisé la mise en place d'une nouvelle feuille de route réaliste et applicable en définissant ses étapes au lieu de fixer de nouvelles dates et refaire les mêmes erreurs. Dans son rapport lu devant les députés par son président, la commission a aussi proposé la mise en place d'une commission chargée de l'élaboration d'une constitution supprimée par l'ancien régime de Muammar Kadhafi en 1969 et appelée à remanier l'exécutif. Dans un communiqué conjoint publié vendredi, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie ont réclamé que soit décidé rapidement un nouveau calendrier électoral après le report de la présidentielle en Libye qui aurait dû se tenir le 24 décembre.
L'Afrique du Sud a entamé lundi une semaine de deuil pour l'archevêque Desmond Tutu, immense figure morale de la lutte contre l'apartheid, décédé dimanche à 90 ans. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu visite à la famille hier dans l'après-midi. Les obsèques sont prévues samedi dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse. Le corps placé en chapelle ardente vendredi sera incinéré et ses cendres reposeront dans la cathédrale.
Le capitaine est le second du MW Waukesha, navire dont l'échouage avait provoqué en 2020 la pire marée noire jamais connue sur les côtes de l'île Maurice, ont été condamnés lundi à 20 mois de prison. Le vraquier japonais s'est échoué le 25 juillet 2020 sur un récif corallien au sud-est de l'île Maurice, relâchant plus de 1000 tonnes de fioul dans ses eaux cristallines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a appelé les Américains à ne pas céder à la panique face à la hausse des contaminations quotidiennes au COVID-19 due au variant Omicron. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Omicron est une source d'inquiétude, mais ne devrait pas être une source de panique, a déclaré Joe Biden depuis la Maison-Blanche lors d'une visioconférence avec une vingtaine de gouverneurs et de conseillers sanitaires. Parce qu'il y a eu tant de vaccinations et de troisième dose, nous ne voyons pas les hospitalisations augmenter autant qu'avant, a affirmé le président alors que 72% de la population a reçu au moins une injection. Biden a toutefois admis que certains hôpitaux sont dépassés en termes d'équipement et de personnel. Il a évoqué les problèmes engendrés par la pénurie de tests et a promis la distribution de 500 millions de kits. Selon les données compilées par le New York Times lundi, le pays a enregistré près de 215 000 nouveaux cas dimanche, un bond de 83% sur une moyenne de 14 jours. Plusieurs États comme le Delaware, Hawaï, le Massachusetts, le New Jersey et New York et le territoire de Porto Rico ont connu une hausse jamais vue sur une période de 7 jours, ajoute le quotidien. Le nombre moyen quotidien de décès a augmenté sur 14 jours, soit plus de 3%, avec un peu plus de 1300 morts.
Les autorités sanitaires américaines ont réduit lundi de moitié la durée recommandée de quarantaine pour les personnes positives au COVID-19. La quarantaine passe désormais donc de 10 jours à 5 jours.
Le jury au procès de l'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell, jugée à New York pour trafic sexuel, a de nouveau échoué lundi dans ses interminables délibérations à décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'ancienne compagne de l'influent financier américain Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.
Madame Maxwell est poursuivie, entre autres, pour avoir fourni à M. Epstein, entre les années 1994 et 2004, des jeunes filles mineures exploitées sexuellement. Le procès au tribunal fédéral de Manhattan a commencé le 29 novembre et les débats ont pris fin il y a une semaine. Mais le jury ne parvient toujours pas à se mettre d'accord sur un verdict. Les jurés se retrouvent aujourd'hui pour poursuivre leurs délibérations.
Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis pour tenter de sauvegarder le pacte de 2015 sur le nucléaire iranien ont repris lundi, Téhéran se concentrant sur la levée des sanctions américaines prises à son encontre. Le septième cycle de pourparlers, le premier depuis l'élection en juin dernier à la présidence iranienne de l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi, c'est terminé il y a 10 jours après que les Iraniens ont réclamé des changements en profondeur du projet d'accord existant.
Washington et Moscou vont négocier le 10 janvier à propos des tensions concernant l'Ukraine et les questions de contrôle de l'armement nucléaire, a fait savoir lundi un porte-parole de la Maison-Blanche chargé des questions de sécurité. Une réunion entre la Russie et l'OTAN pourrait ensuite avoir lieu le 12 janvier, suivie le 13 janvier d'une rencontre entre la Russie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont font partie les États-Unis, a ajouté la même source. À présent, la minute écho avec John Lindon.
Les Sénégalais de la diaspora ont envoyé beaucoup plus d'argent dans leur pays cette année. Ainsi, le cumul des transferts nets d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal durant les 9 premiers mois de l'année 2021 a connu une forte augmentation, soit 216,2 milliards de francs CFA comparé à la même période de 2020. Selon les données de la Direction de la monnaie et du crédit du ministère des Finances et du Budget relayées par Financial Afrique, soit une progression de 24,8%. Après Douala, la capitale économique en octobre dernier, Banco National de Guinée dispose désormais, selon Investir au Cameroun, d'une agence à la rue des banques à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. L'agrément final a été délivré le 10 novembre 2020 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. La filiale a lancé ses activités avec un capital de 12 milliards de francs CFA. Près de 2500 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde lundi, le variant Omicron du COVID-19 perturbant les voyages pendant les fêtes avec notamment des pilotes et membres d'équipage malades ou en quarantaine. Ces perturbations concernent surtout la Chine, l'Indonésie et les États-Unis qui enregistrent un quart du total des annulations.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football se rapproche à grands pas. Le compte à rebours est désormais lancé et à 2 semaines du match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, la libération des joueurs internationaux appelés à disputer la compétition a été prolongée au 3 janvier. Soit une semaine de plus que la date limite qui devait être ce lundi. La CAF autorise désormais les clubs européens à conserver leurs joueurs jusqu'à cette date inclue, indique la FIFA dans un courrier adressé à l'Association européenne des clubs, aux ligues et aux fédérations. Les clubs anglais qui disputent plusieurs journées du championnat d'ici le 3 janvier et leurs homologues français qui jouent les 16e de finale de la Coupe nationale entre le 2 et le 3 sont notamment concernés. On le rappelle, la semaine dernière, le CA avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie. Un vrai casse-tête pour certaines sélections qui auront forcément une préparation tronquée. Le cas du Mali avec ses 11 joueurs évoluant dans le championnat français. Le sélectionneur Mohamed Magasouba a rendu publique la liste de 28 joueurs qu'il amènera au Cameroun. Notre correspondant Siaka Traoré nous en dit plus.
La liste a été rendue publique le vendredi 24 décembre 2021 par le sélectionneur Mohamed Magasouba. Les 28 joueurs sont tous des expatriés, 3 gardiens de but et 25 joueurs de champ. Il y a environ une dizaine de joueurs parmi les 28 qui vont découvrir la phase finale de la CAN pour une première fois. Comme par exemple Issara Samake de Horoya AC de la Guinée-Conakry, ancien sociétaire du Stade Malien de Bamako, El Bilal Touré de Reims de France ou encore Mohamed Kamara de Red Bull Salzbourg d'Autriche. Parmi les joueurs attendus et qui en ont l'habitude, il y a entre autres Hamari Traoré de Rennes France, Moussa Dienempo de Southampton d'Angleterre, Moussa Doumbia de Reims France, Amadou Aïdara alias Doudou de Leipzig d'Allemagne, sans oublier les deux Adama Traoré, Adama Nos et Malouda. Diadje Samasekou fait partie des habitués, il est sur la liste. Yves Bissouma, celui dont le nom était sur beaucoup de lèvres quelques jours avant la publication de la liste, a été retenu par Magasouba. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Il faut dire que les sélections commencent déjà à fouler le sol camerounais. La première, c'est bien l'Éthiopie. Le champion d'Afrique de 1962 est arrivé ce dimanche à Yaoundé. Une fois passés les tests Covid avec succès, les hommes de Oubetou Abaté ont rejoint leur camp de base. Les Antilopes débutent la compétition le 9 janvier face au Cap Vert. Et puis, l'essence fêtière du foot en Afrique procédera aujourd'hui au tirage au sort de la composition des groupes de ces deux compétitions des clubs, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Dans chaque compétition, 16 clubs seront répartis en 4 groupes de 4. La phase de poule de 16 interclubs de la CAF démarre en février 2022 avec la première journée. Et puis du basketball pour finir, la NBA avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit.
Oui, Élysée, Charlotte a disposé de Houston 123-99. Chicago a battu Atlanta 130-118. Minnesota a pris le meilleur sur Boston 108-103. Utah Jazz a défait San Antonio 110-104. Memphis a arraché la victoire devant Phoenix 114-113. Dallas a dominé Portland 132-117. Et les Nets de Brooklyn ont remporté le gain du match face aux Clippers de Los Angeles 124-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La justice camerounaise a libéré 3 étudiants anglophones condamnés en 2016 pour une blague par SMS sur Boko Haram. Elle a aussi condamné hier plus d'une trentaine de cadres et de militants du MRC, le parti de Maurice Kamto, poursuivi pour insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jolenta.
Selon Victorine Chantal Edinguette, l'avocate des 3 étudiants, ces derniers ont quitté la prison ce week-end, après qu'une décision de la Cour suprême a réduit le 16 décembre dernier leur peine de 10 à 5 ans qu'ils ont déjà passé en prison. L'annonce de leur libération a été saluée lundi par Amnesty International. Ils ont enfin pu retrouver leur famille, s'est réjouie dans un communiqué Samira Daoud, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à Amnesty International. Ces 3 étudiants, Fomoussou Aivomfe, Afounivelle Mfor et Azalevi Sringop, avaient été condamnés par le tribunal militaire de Yaoundé pour non-dénonciation d'informations liées au terrorisme, alors qu'ils avaient reçu et partagé sous forme de blague en décembre 2014 un SMS ainsi libellé. Citation, Boko Haram recrute des jeunes à partir de 14 ans. Conditions de recrutement, 4 matières au DCI, y compris la religion. Fin de citation. Mais les étudiants ont toujours clamé devant le tribunal militaire de Yaoundé n'avoir aucun lien avec le groupe djihadiste. C'est ce même tribunal qui a condamné lundi une trentaine de militants du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à des peines de 1 à 7 ans de prison ferme. Parmi les condamnés, Alain Fogué, trésorier du MRC, et Olivier Bibounissat, porte-parole du leader de ce parti, Maurice Kamto. Les personnes condamnées avaient été arrêtées entre le 20 et le 21 septembre 2020, alors que le MRC avait appelé à des marches pour exiger une réforme consensuelle du code électoral avant la tenue des élections régionales, la fin du conflit en zone anglophone et la transparence dans la gestion du budget d'organisation de la CAN de football. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Mali, un mois après le lancement de la phase communale des Assises nationales de la Refondation, elles ont amorcé leur dernière ligne droite hier à Bamako, la capitale. 4 jours durant, 1 millier de participants venus des 4 coins du pays vont se pencher sur les problèmes majeurs de la nation. Au sorti de cette rencontre, les plus hautes autorités du pays souhaitent jeter les fondements d'un Mali nouveau. De Bamako, la correspondance de Lamissa Sangaré.
Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait la genèse de la crise actuelle avec ses conséquences multiples sur les nombreux secteurs de développement national. C'est pourquoi, explique-t-il, qu'il était temps d'arrêter la spirale de la dérive et il pense que les assises en constituent les meilleurs moyens.
C'est pourquoi nous devons replacer notre Maliba dans une nouvelle dynamique plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C'est à cette entreprise de refondation qui a valé des salubrités publiques que vous êtes conviés pour poser les fondements solides et les modèles de gouvernance endogène qui s'inspirent de notre patrimoine historique et culturel.
Assimi Goïta croit que ces assises peuvent et doivent être une occasion de plus pour faire face à l'adversité.
Notre tradition de dialogue nous prédispose à résister aux crises car celles-ci nous fournissent au même moment les armatures du Mali nouveau, débarrassées de la corruption, de l'instabilité, de l'impunité, de l'injustice, de la pauvreté, du chômage endémique des jeunes et de la mauvaise gouvernance.
Il a en outre averti que les résultats qui y sortiront ne seront pas une fin en soi.
Il sera mis en place à la fin des assises un comité de suivi et d'évaluation, ainsi qu'une phase technique intense et élaborera des cadres de référence des politiques publiques, d'orientation stratégique, de planification économique et de développement, des suggestions de nouvelles lois de programmation, d'instruments opérationnels financiers, des modifications réglementaires.
Pour la réussite de l'événement, Aïbala Ould Hamma, membre de la commission d'organisation, en appelle au sens du patriotisme de tout un chacun.
Vraiment, il faut que le Mali change, il faut que nous, les fils de Maliens, il faut qu'il change le Mali. Je remercie Dieu, je pense qu'il doit changer, Inch'Allah. Je demande les Maliens, vraiment qu'il faut qu'ils donnent le main, il faut qu'on va avancer notre cher Mali.
Mohamed Ould Matali de la plateforme du 24 juin a qualifié l'événement d'un tournant décisif.
Je crois que les différentes commissions viennent de se mettre en place. Les différents présidents sont en train de lire les thématiques qu'ils vont essayer de discuter au niveau de chaque commission. Déjà, les gens sont très motivés, sont venus en force dans l'enthousiasme, dans la cordialité. C'est un tournant décisif de la République du Mali. Aujourd'hui, le Mali, plus que jamais, a besoin de la refondation.
Il s'est dit très confiant pour l'atteinte des objectifs.
Il y a eu toujours des bons textes, mais n'ont jamais été appliqués. Et cette fois-ci, je crois que les gens l'ont si bien compris que ça crée un engouement. Chacun veut venir pour qu'il participe et qu'il soit présent dans ce qui va être appliqué dans ces Mali nouveaux.
La phase nationale des assises de la refondation prend fin le 30 décembre. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Direction maintenant le Sénégal, le président Macky Sall a lancé lundi le TER, le train express régional, reliant Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio, distante de 36 km. Ce projet d'un coût d'environ 800 milliards de francs CFA est l'un des plus importants investissements du régime du président Macky Sall. Cependant, certains Sénégalais riverains qui subissent les nuisances du TER sont partagés entre fierté et colère. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Au moment où le président Macky Sall procédait en grande pompe à la mise en service du TER, des Sénégalais riverains du train express régional expriment leur fierté, mais aussi leur désolation devant certains manquements. Goro Sidibé est un riverain du TER.
Nous magnifions le projet du TER. C'est un excellent projet qui est extrêmement innovant et qui, nous sommes sûrs, sera d'un grand apport pour nous. Mais quand même, il y a encore des choses à gérer pour nous, les riverains, car actuellement, nous ne sommes pas dans les meilleures conditions. Il y a eu des séparations par zone d'habitation et des déguerpissements qui ont eu de graves conséquences sur des pères de famille. L'État doit vraiment essayer d'améliorer cette situation parce que c'est dur.
Diallo est justement un de ces pères de famille déguerpis de leur lieu de travail. Pour lui, il est temps que les autorités prennent conscience de leurs difficultés.
Le TER nous a vraiment causé des soucis importants. On nous a déplacés de notre endroit de travail habituel sans même nous recaser. Et jusqu'à présent, on ne sait pas à quel sens vouer. On est très fatigué et ça, c'est pas bien. On doit nous aider à avoir des lieux où mener notre activité à bien parce que nous sommes des chefs de famille. Moi, par exemple, je viens de Fouta et j'ai laissé toute ma famille là-bas et ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles.
À Pékin, dans la banlieue de Dakar, certains parents comme Ismaël Essek se plaignent de l'inexistence d'espaces de loisirs pour les enfants et de sport pour les jeunes.
C'est inadmissible qu'on fasse cela. Vraiment, il faut qu'on trouve des mesures. Je suis très énervé. Même mes enfants ne peuvent plus jouer correctement ou partir à l'école avec une sérénité. Vraiment, on est dévasté par ce fléau, vraiment. Et en plus, on n'est pas dédommagé par l'État. Bon, on nous traite comme des moins que rien, comme des pauvres démunis, vraiment. Nous aimons pas, vraiment. C'est inadmissible.
Lors du lancement du train express régional, le président Macky Sall a produit son apport aux impactés et offert la gratuité du transport pendant 15 jours. Avec la mise en service de sa phase 1, le TER va transporter 115 000 passagers par jour et desservir 13 gares et haltes entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Diamniadio. Le TER vise également une régularité de 6 trains par heure à raison d'un chaque 10 minutes. À la suite de cette phase 1, le TER va relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne, distante de 57 km. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La région du Sahel en Afrique est en proie au terrorisme et au conflit, une crise exacerbée par les effets dévastateurs du changement climatique sur les agriculteurs et les éleveurs. Un reportage d'Henry Wilkins au Burkina Faso, le récit est de Ginny Kapumbu-Villa.
Le Sahel s'étend sur près de 6000 km, 3700 miles, le long de la bordure sud du Sahara, de la Corne de l'Afrique à l'est jusqu'à la côte ouest de l'Atlantique. Il y a peu de précipitations au Sahel et les agriculteurs ont du mal à survivre dans certaines des conditions agricoles les plus difficiles de la planète. Alors que le changement climatique entraîne une sécheresse plus intense et dégrade les terres du Sahel, la violence intercommunautaire liée à la diminution des ressources s'est accrue. Une grande partie du conflit entre les éleveurs et les agriculteurs qui rivalisent pour utiliser la terre à leur propre fin. Certains dans la région ont rejoint des groupes terroristes, des militants liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda qui se rendent dans des villages à moto et attaquent les civils sans discernement. Nous nous sommes rendus à Dori, dans le nord-est du Burkina Faso, où les gens vivent en première ligne de la guerre et du changement climatique. À seulement 5 km de Dori, des terroristes ont attaqué des civils et des véhicules de l'ONU à plusieurs reprises cette année. Birgit Lamizana a grandi au Burkina Faso. Aujourd'hui, elle est basée à Bonn, en Allemagne, en tant que chargée de projet pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Le changement climatique est une sorte d'ennemi invisible dans le conflit au Sahel. Le ministre britannique de la Défense dit que 60 millions de personnes migreront depuis des terres dégradées d'Afrique si rien n'est fait.
La crise au Sahel a déplacé près de 3,5 millions de personnes selon l'ONU. Nous avons rencontré Zara Ourita, elle fait partie des 1,3 million de déplacés internes au Burkina Faso. Zara est arrivée à Dori en provenance d'Arbinda, une ville située à environ 60 km de là, où des extrémistes terrorisaient régulièrement les communautés, tuant des hommes, des femmes et des enfants. Une attaque contre Arbinda en août a fait plus de 80 morts. Elle décrit le raid qui l'a amené à fuir Arbinda il y a 2 ans.
En tout cas, c'est quoi on pensait là? On pensait que c'était bon, la fin du monde seulement, puisque les bruits de feu là, c'était trop.
Dans les années qui ont précédé sa fuite d'Arbinda, elle a remarqué que le temps commençait à changer. Cela a réduit les terres utilisables et a forcé la communauté à changer aussi.
Avant, il pleuvait, mais aujourd'hui, en tout cas, il ne pleut pas. Les gens mangeaient en famille, quoi. Et puis surtout, les enfants respectaient les grands.
Salem est aussi un migrant qui a fui le terrorisme. Comme des milliers d'autres au Burkina Faso, il a rejoint une milice soutenue par l'État, connue sous le nom des volontaires pour la défense de la patrie. Ils servent d'auxiliaires et de guides locaux pour les militaires. Mais ils ont également été accusés d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires contre des civils qu'ils pensent être liés à des terroristes.
Nous avions l'irrigation, l'agriculture et l'élevage. Aucune de ces choses n'est possible maintenant. Les terroristes ont laissé les gens affamés et assoiffés. Les écoles, les centres de santé et les bureaux du gouvernement, comme la police, sont tous fermés. C'est une situation difficile pour nous.
Les analystes disent que le Sahel est un prototype de ce qui va bientôt commencer à se produire dans d'autres parties du globe, alors que le changement climatique se poursuit et que rien n'est fait.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Jean-Roger Billon et Rosine Monezero, à la mise en onde Michel Joseph et à la technique Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet.